Radio Kapi.
Le journal présenté par Lievin Mbwinga.
Bonsoir à tous, à la une de l'actualité, le monkeypox qui fait toujours parler de lui, un nouveau cas de décès recensé dans la zone de santé de Kalonge au sud Kivu. Le gouvernement congolais lui s'apprête à débloquer 49 millions de dollars américains pour venir à bout de cette maladie. Encore des morts sous les rivières de l'ex-Bandundu, plus de 200 personnes portées disparues, au moins 40 rescapés et 3 corps sans vie repêchés. Bilan provisoire du naufrage d'une embarcation survenue la nuit de dimanche à hier lundi sur la rivière Lukeni, province du Mai-Ndombe. La surcharge serait à la base de cet accident. Plusieurs professeurs d'université, chercheurs et savants kassaïens se penchent sur l'assassinat du chef coutumier Kamuina Sampou et les violences qui ont suivi sa mort 8 ans après. Deux journées scientifiques sont organisées à Kananga par le groupe Intelligentsia Sociologique pour décortiquer ce dossier et sur Radio Kapi. C'est le président de ce groupe, professeur Théo Mwamba, qui va nous éclairer sur cette affaire. L'actualité dominée, vous le savez, par ce drame sanitaire qu'est la maladie de monkeypox en RDC, et de mauvaises nouvelles proviennent du Sud Kivu. Un nouveau cas de décès dû à la maladie a été recensé hier lundi dans la zone de santé de Kalonge à l'hôpital général de référence. Le médecin directeur de cet hôpital, qui confirme l'information, déplore en même temps l'insuffisance des médicaments contre le monkeypox. Le point avec Jean Kassami.
La prise en charge de malades n'est pas totalement assurée. Les autorités sanitaires de la zone sollicitent l'implication des partenaires qui interviennent dans leur secteur ici au Sud Kivu. Les porte-parole de la division provinciale de la santé au Sud Kivu précisent que la victime est un jeune homme de 22 ans. Claude Baizir demande aux zones de santé de prendre gratuitement en charge tous les cas de monkeypox, y compris les cas suspects, et amener les échantillons au laboratoire approprié déjà installé à Bukavu. Aux malades, ils demandent de ne pas s'éterrer chez eux ni de se diriger dans des chambres de prière au lieu de se rendre immédiatement auprès des institutions médicales pour des soins appropriés. Cet appel tombe à point nommé car, d'après les médecins directeurs de l'hôpital général de référence de Kalonge, plusieurs personnes atteintes de monkeypox hésitent à venir consulter, mettant en évidence le manque de moyens pour les soins. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Entre-temps, le gouvernement congolais s'en va en guerre contre cette maladie. 49 millions de dollars américains, c'est le montant qu'il compte débloquer pour venir à bout de cette épidémie qui sévit dans presque toutes les provinces de la RDC. Cette somme concerne l'ensemble de la riposte, sans compter le coût du vaccin. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Roger Kamba, lors d'une conférence de presse tenue hier lundi à Kinshasa. Cette enveloppe budgétaire est destinée à couvrir les opérations de déploiement, de prise en charge, de surveillance ainsi que les activités de laboratoire. En ce qui concerne le vaccin, a indiqué Roger Kamba, le besoin est de 3,5 millions de doses d'une valeur de 600 millions de dollars américains. Il recommande dans cet extrait, choisi par Blaise Makassi, des attitudes à adopter pour stopper cette épidémie. Suivez.
Les animaux morts d'eux-mêmes, il ne faut pas y toucher, parce qu'on ne sait pas de quoi ils sont morts. Les animaux qui présentent des signes de maladie, il ne faut pas y toucher. Le singe et les rongeurs, ne touchez pas à cela, parce que vous risquez d'attraper la maladie. La deuxième chose, c'est que le mode de contamination le plus fréquent, c'est le contact. Quelqu'un qui est malade, évitez le contact direct, mais aussi évitez le contact indirect, tout ce qui est drap, tout ce qui est serviette, tout ce qui est habit. Ne portez pas les habits de quelqu'un qui est déjà malade. Pour celui qui est malade, c'est d'informer les autres et notamment d'aller se faire soigner pour qu'ils soient pris en charge. Et d'ailleurs, à propos de se faire soigner, je vous dis que quand la prise en charge est bonne, la mortalité vraiment diminue et c'est très important qu'on le fasse. Troisième message que je voudrais vraiment passer, c'est que quand on va commencer le vaccin, eh bien, on va d'abord privilégier les zones les plus à risque, mais il faut que aussi bien la presse que tout le monde nous aide à ce que ce vaccin qui est très cher puisse arriver à la personne qui en a vraiment besoin.
Je le disais en titre, la série noire continue sur les rivières de l'ex-province de Bandundu. Plus de 200 personnes portées disparues, au moins 40 rescapées et 3 corps sans vie repêchés. Bilan provisoire du naufrage d'une embarcation en bois survenue la nuit de dimanche à hier lundi sur la rivière Lukeni, non loin de la cité de Tolo, dans le territoire de Koutou, province du Maïndombé. Fidèle Lizorongo Mpamunao, président de la société civile de Koutou, qui confirme l'information, indique que la baleinière en provenance de Oshue pour Nyoki transportait à son bord plus de 300 personnes. Le gouverneur du Maïndombé, le bon Koso Kevani, déplore ce drame et parle des mesures prises. Il est au micro d'Irène Mboma.
Le vrai problème, c'est toujours cette navigation nocturne et puis la surcharge. Donc, ce sont là les éléments qui sont souvent la cause des naufrages, des embarcations non sécurisées, donc communément appelées les baleinières. Donc, là, en tant qu'autorité, nous allons prendre vraiment des mesures draconiennes et aussi proposer une alternative par rapport à cette situation, parce que nous devons avoir des embarcations sécurisées et je crois que c'est ce qui est vraiment prévu dans notre programme d'action. Donc, nous allons les faire dans quelques mois. Donc, il y aura déjà des embarcations sécurisées. Donc voilà, mais au moins il y a une équipe qui est diligentée sur place dans quelques heures. Elle sera là, composée de membres des comités de sécurité provincial et qui va diligenter une enquête pour établir des responsabilités.
Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, autour d'une table avec les importateurs des produits alimentaires hier lundi à Kinshasa. Au menu, l'application rapide des mesures contre la vie chère en RDC par ses opérateurs économiques. Daniel Moukoko Samba invite les opérateurs à prendre leurs responsabilités en baissant les prix parce que certaines taxes jugées illégales ou celles qui ne devraient pas exister ont été supprimées afin de réduire leurs charges. Au nom des importateurs, Ibrahim Issaoui, patron de la Socimex et vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, a salué les efforts du gouvernement central pour avoir pris la décision de supprimer certaines taxes qui sont à la base de la hausse des prix de certaines denrées en RDC. Suivez-le dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
Nous avons été invités par Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie, par rapport à l'annonce qui a été faite par le gouvernement sur la réduction du prix des produits alimentaires et la suppression et la réduction de certaines charges fiscales et parafiscales. C'était vraiment une réflexion à haute voix. C'était pas vraiment par la force, au contraire. On a chacun à donner son point de vue et ensemble, espérons qu'on pourra arriver à un bon résultat pour l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Effectivement, ça nous arrange la réduction du prix. La réduction des prix de vente et la réduction du charge, ça nous arrange parce que nous aussi, on fait une partie de cette population et la population a un pouvoir d'achat très faible. Une fois que les produits vont coûter moins cher, ils vont consommer plus. Ça va augmenter même le chiffre d'affaires en termes de volume.
Sept chefs d'établissements scolaires publics et privés de la province éducationnelle Sankuru 1 mis hors circuit du système éducatif en République démocratique du Congo. Nous sommes là dans la province du Sankuru et pour cause, certains sont taxés d'immoralité et d'autres d'avoir augmenté les frais de participation à certaines épreuves. Explication Esther Ndalafina.
Plusieurs griefs sont portés à leur charge par Jean-Pierre Grégory Boloma, directeur de la province éducationnelle Sankuru 1. Il s'agit du chef d'établissement du lycée Chef Emongo, celui du complexe scolaire Excellence, Amour Divin, Wechikoy, d'élite pro et de ceux des instituts Temps des Dieux et Véro Kahamboué. Certains sont reprochés d'avoir fait payer aux élèves les frais de participation aux épreuves hors session allant de 300 à 500 000 francs congolais par élève au lieu de 65 000 francs fixés dans l'arrêté provincial signé par le gouverneur de province. D'autres sont taxés d'immoralité par le fait qu'ils courtisent certains élèves et les prennent en mariage forcé pour couvrir les cas de viol. D'autres encore entretiennent des établissements scolaires sans actes juridiques et sans infrastructures adéquates. Dans ce document, le lycée Chef Emongo, jugé d'être les foyers des antivaleurs, est même menacé de fermeture en cas de non-changement de comportement par le promoteur de cet établissement. Signalons que cette décision est tombée au lendemain des assises provinciales de la revue annuelle des performances tenue à l'Odja. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Justice à présent, les avocats des barreaux de Kinshasa et du Olomami ont déposé hier à l'auditorat général des FARDC une plainte contre le général Kifua, commandant de la zone militaire du Olomami. Il l'accuse d'avoir fait administrer des coups et blessures à leurs confrères par ses gardes du corps, le déshonorant publiquement. Ils exigent l'ouverture d'un procès en procédure de flagrance. Après l'auditorat militaire, ils ont remis leur mémorandum au ministre de la Justice en vue d'un soutien à leur démarche et tester l'existence d'un véritable état de droit. Selon l'une des avocates, Maître Annie Bambé, ce qui est arrivé à leurs confrères les motive à soutenir davantage les réformes engagées par le ministre pour le barreau congolais. Annie Bambé a été jointe par Jeff Ngoy.
Nous sommes venus au cabinet du ministre de la Justice pour fustiger le comportement barbare, inculte, sauvage, incivique et infractionnel d'un officier supérieur de l'armée congolaise, général Kifua, à l'égard d'un confrère, maître Mushibi Kabwende Fabi. Tous les avocats de tous les barreaux confondus réclament que le général Kifua répond de ses actes dans une procédure dotée d'un caractère de flagrance, car un corps a été touché, d'où la pertinence et l'opportunité des réformes judiciaires, notamment la loi sur les barreaux.
Et puis ces chiffres, plus de 6000 cas de violence basés sur le genre répertoriés au premier semestre de l'année 2024 en Ituri. Cette statistique a été livrée ce lundi par l'Organisation des Nations Unies pour la population UNFPA à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Selon cette structure, la zone la plus touchée est le territoire de Djougou, avec son nombre élevé de personnes déplacées à la suite des atrocités des groupes armés, ce qui expose ces vulnérables qui vivent dans des conditions déplorables. Pour y faire face, Brigitte Omari, coordonnatrice du sous-cluster des VBG à l'UNFPA, en Ituri, indique que son organisation travaille avec d'autres partenaires, dont le ministère de la Santé, pour renforcer la sensibilisation dans les communautés en apportant l'assistance pour la prise en charge des victimes. Madame Brigitte Omari est au micro de Martial Kiza Biamungu.
Dans les communautés d'accueil, il y a vraiment une forte promiscuité. Il y a aussi le faible moyen de survie, ce qui les laisse développer des mécanismes illégaux de survie, tels que le sexe et des survies. Tous ces aspects-là font en sorte qu'il y ait de plus en plus de cas de VBG. Nous mettons à disposition les outils de collecte des données à jour, notamment les circuits de référencement, qui reprend tous les services disponibles auprès desquels les survivantes pourraient se rendre pour bénéficier de l'aide. Au-delà de ça, nous travaillons aux côtés du ministère de la Santé en renforçant aussi les capacités des prestataires sanitaires et en mettant à leur disposition les kits post-viol pour la prise en charge des cas. Et sans oublier l'aspect très important aussi de la prévention, la sensibilisation à tous les niveaux. Pour le moment, nous sommes en train de mettre en œuvre des grands projets dans les secteurs de l'éducation et aussi de la santé où nous luttons contre les abus et exploitations sexuelles dans ce milieu-là.
Actualité internationale.
En prévention, la propagation du virus de monkeypox, la variole du singe, l'Ouganda a renforcé la surveillance au niveau de ses zones frontalières avec la République démocratique du Congo, qui est un point chaud pour le virus. À ce jour, l'Ouganda ne compte aucun cas actif de variole, selon le ministère de la Santé du pays. Les deux cas importés fin juillet ont été traités et résolus sans complications.
L'invité.
Le combat de Kamuina Nsapu était au centre des deux journées scientifiques organisées à Kananga par le groupe Intelligentsia Sociologique réunissant plusieurs professeurs d'université, chercheurs et savants kassaïens. Cette synergie a voulu, 8 ans après l'assassinat de ce chef coutumier et les violences qui ont suivi sa mort, réfléchir sur sa lutte et les leçons à tirer. S'opposant à toute forme de violence, le professeur Théo Mwamba, président de ce groupe, souligne tout de même que la situation de Kamuina Nsapu a permis au pouvoir public de comprendre les principes qui concourent à la désignation des chefs coutumiers. Il s'entretient ici avec François Kadima.
Bonjour professeur Théo Mwamba.
Bonjour
Monsieur François.
Qu'est-ce qui motive cet enthousiasme autour du combat de Kamuina Nsapu?
Le groupe Intelligentsia Sociologique a voulu, 8 ans après l'assassinat des chefs Kamuina Nsapu, réfléchir sur le courage de ses chefs et les combats qu'il a menés pour la revalorisation du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Les intellectuels, les savants, les professeurs d'université, les chercheurs ont voulu mettre en synergie leurs réflexions autour de cette symbolique de Kamuina Nsapu. Cette figure qui a fait parler du pouvoir coutumier et cette figure qui a fait reporter les élections de 2016. Cette figure de celui qui est arrivé à mobiliser les jeunes, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres motivations? Les chercheurs ont trouvé quelques pistes de solutions. Ils se sont posé aussi la question, comment cette figure qui a lutté et qui a réussi à libérer les pouvoirs coutumiers, parce qu'à après cette insurrection ou cette révolte de Kamuina Nsapu, due au refus de la reconnaissance de son autorité coutumière, après cet assassinat, le pouvoir public a observé, constaté en même temps qu'il y a eu une contradiction entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs coutumiers. C'est comme ça qu'en 2017, une année après l'assassinat de Kamuina Nsapu, le pouvoir public va mettre sur pied la commission consultative des règlements des conflits coutumiers. Depuis cet assassinat jusqu'à aujourd'hui, même les ministres de l'Intérieur, pour nommer un chef coutumier, ils demandent que la loi soit respectée, qu'il puisse provenir de la famille régnante.
Vous parlez d'une lutte qui est passée par la violence et des pertes en vies humaines et derrière un combat, c'est ce que vous soutenez.
Nous ne soutenons pas, faisons pas l'apologie de la violence, encore moins de l'intolérance. Nous ne parlons pas d'abord de cette lutte pour la libération du pouvoir coutumier. Nous disons en un mot, c'était une lutte de revendication. Il réclamait la reconnaissance de son autorité. Mais il est entré en contradiction avec les pouvoirs publics. Et les conséquences sont donc la violence qui s'est généralisée, qui a débordé, qui a quitté la province du Kasaï central pour vraiment s'étendre sur l'espace Grand Kasaï, aller même au-delà des limites de Grand Kasaï. Donc c'est de cette manière que nous nous réfléchissons. Nous ne pouvons pas encourager qu'un chef coutumier se rebelle contre la voie publique, qu'il attaque les symboles de l'État et qu'il tue, décapite les têtes des personnes humaines qui sont sacrées. Mais nous disons, est-ce que 8 ans après, est-ce que cela a servi de leçon?
8 ans après, les intellectuels se posent des questions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kamuina Nsapu reste un symbole d'une lutte ou symbole de la violence qui a coûté des vies humaines?
Nous ne voudrions pas que les chefs coutumiers imitent cet exemple qui n'est pas un bel exemple. Ça, c'est de un. De deux, nous avons même estimé qu'il a fallu que les pouvoirs publics, à travers la loi de 2015, portant statut de chef coutumier, pour se redéfinir bien ce que c'est un chef coutumier et surtout sa nomination qui vient de l'État, mais sa désignation par la famille régnante, mais qu'on insiste sur si pour être désigné par la famille régnante, il doit être de la lignée du pouvoir. Or, la loi qui a été votée, qui est même source de conflits, n'a pas défini bien les choses clairement. Qu'on ne puisse pas considérer Kamuina Nsapu comme l'incarnation de la lutte des violences, encore moins l'incarnation de la lutte de libération des pouvoirs coutumiers, mais qu'on voit à partir de ce passé qui est tragique, est-ce qu'il y a moyen de corriger pour qu'il y ait de non-répétitions, pour qu'aucun chef ne puisse encore se rebeller contre le pouvoir politique, et que le pouvoir politique, dans sa manière de gérer le pouvoir coutumier, puisse voir dans quelle mesure respecter la voie de désignation et de nomination du chef coutumier.
Professeur Théo Mwamba, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, François Kadima.
Ainsi se termine ce journal. Au nom de Martin Sebujangwe, Pelé Kipelamondo, Junior Kamunga et Polydor Basunga, je vous dis merci de l'avoir suivi.